ont fait une onction d'huile, exemple. Ils prendraient l'huile et ils appliquaient l'huile à une personne pour représenter la présence du Saint-Esprit. Quand on a quelqu'un d'huile pour prier pour les malades, on met de l'huile sur la personne. Ça représente la présence de l'Esprit Saint. Donc, quand on parle de Jésus-Christ, nous parlons de quelqu'un. Le Christ, c'est celui qui est loin de Dieu. Nous savons comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et je suis content que cette même onction qui était sur Jésus est disponible pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Amen. Et donc, dans le fond, quand les gens voyaient ces hommes et ces femmes qui croyaient en Jésus, qui étaient les disciples, et qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient ces personnes faire les mêmes genres de choses que Jésus, le Christ, faisait pendant son ministère terrestre. Donc, ces hommes et ces femmes ont fait penser, ils ont dit, waouh, quand je vois cette personne, je vais penser à Jésus. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient la même onction qui était sur Jésus en opération dans la vie de ses croyants. C'est pourquoi ils ont appelé ces personnes les chrétiens ou les petits chrétiens ou les petits, ceux qui sont au loin de Dieu, dans le fond. C'était une onction et c'était la présence de quelqu'un, la présence de Jésus-Christ dans leur vie qui ont fait en sorte, qui ont provoqué. Dans le fond, ce n'était pas toujours gentil de la part des non-croyants quand ils appelaient des personnes les chrétiens, les petits Christ. Comme aujourd'hui, de toute évidence, quand quelqu'un au Québec utilise ce terme, ce n'est pas toujours gentil, vous êtes d'accord? Alors moi, c'est sûr que c'est pas une expression que j'utilise, mais quand même, faisons attention parce qu'on ne veut pas passer à côté d'une réalité importante. Que Dieu nous appelle en tant que chrétiens de vivre ici sur la terre comme des petits gens qui sont au loin du Saint-Esprit. Amen? Riez, bon, allez-y, riez bien comme faut, hein? Il faut sortir ça de votre système, hein? Il y a des gens qui pensent toujours à qu'est-ce que j'ai dit la semaine passée, hein. Ils voient les gens se promener comme une bande de petits oints. Une bande de petits oints. Mais savez-vous, c'était vraiment ça le contexte en Actes chapitre 11. Ils voyaient les croyants, les disciples se promener comme une bande de petits oints. Ils agissaient comme Jésus. Ils priaient pour les malades. Les malades étaient guéris. Mais ils dérangeaient la société. Savez-vous quoi? Que autant que l'onction de Dieu va faire du bien à ceux qui sont dans le besoin, autant l'onction de Dieu va déranger ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez entendu? Autant que la présence de Dieu va faire du bien à ceux qui sont réceptifs et à ceux qui ont besoin de la présence de Dieu, autant cette même présence va déranger les autres. Moi, je sais que quand j'ai passé par une période de ma vie où j'étais un peu rebelle, ok, parce que j'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 10 ans, mais j'avais une petite période où j'étais un peu rebelle. Et il y avait certaines personnes qui étaient dans mon église, que dans le fond, ça ne me dérangeait pas du tout d'être dans le présent, mais il y avait d'autres personnes que à chaque fois qu'ils venaient à la maison, j'étais comme pas confortable. Ça me dérangeait. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient tellement remplies de la présence de Dieu, remplies de l'onction de Dieu, remplies de l'Esprit de Dieu, remplies de la parole de Dieu, remplies de l'amour de Dieu. Ils étaient tellement remplis que ça m'a dérangé. Pourquoi est-ce que ça m'a dérangé? Parce que je voyais ma vie qui n'était pas en ordre. Je voyais des choses qui n'étaient pas correctes dans mon cœur. Et quand j'étais dans la présence de cette personne, c'était la conviction du Saint-Esprit. J'étais comme, toute ma vie était comme éclairée. J'étais dans la lumière. Et savez-vous quoi? Le péché n'aime pas la lumière. Est-ce que vous êtes là ce matin? On parle des vraies choses. On a parlé la semaine passée de comment être une vraie chrétienne. Comment vivre une vie qui va faire en sorte que les gens dans votre entourage vont vous accuser d'être comme Jésus. Aimeriez-vous avoir ces genres d'accusations? C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Donc, on voit que c'est pas juste parce que quelqu'un est gentil. C'est pas juste parce que quelqu'un a des bonnes morales. C'est pas parce que quelqu'un a décidé de ne pas mentir ou de ne pas faire des bêtises que les gens vont l'accuser d'être comme Jésus. C'est pas assez être une bonne personne. Combien de vous savez que c'est pas assez juste être une bonne personne? Vous avez besoin de la présence de Dieu dans votre vie, et il faut que la présence de Dieu soit assez évidente que tout le monde qui vous entoure reconnaisse la présence de Dieu, et ça va avoir un de deux effets. Soit les gens vont être convaincus, ils vont ouvrir leur cœur à Jésus, et ils vont recevoir la vie de Dieu dans leur cœur, ou les gens vont rejeter, ils vont fermer leur cœur et ils vont être dérangés par votre présence. Est-ce que vous êtes prêt à déranger le diable?
Amen.
Est-ce que vous êtes prêt à déranger ceux qui veulent fermer leur cœur? Et est-ce que vous êtes prêt à donner la vie à ceux qui vont l'ouvrir? En fait, il y a un verset, ce n'est pas dans vos notes, je n'ai pas planifié de le dire, mais un verset de la Bible qui dit que nous sommes comme la bonne odeur de Jésus-Christ. Vous savez, à chaque place où on va, nous sommes la bonne odeur de Christ. Et pour quelques-uns, cette odeur mène à la vie, et pour d'autres, ça mène à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore, si toi, tu es rempli du Saint-Esprit, rempli, plein à craquer de la présence de Dieu, et quand vous... Vous êtes au travail, les personnes qui sont réceptives et qui sont ouvertes du cœur, ça va les amener à connaître le Christ, n'est-ce pas? Mais cette même Esprit Saint qui est en vous, cette même présence de Dieu qui va amener quelques-uns à Jésus, va faire en sorte qu'il y a d'autres personnes qui vont résister, qui vont fermer leur cœur et qui vont être dérangées par votre présence. Donc, la présence de Dieu dans votre vie, pour quelques-uns, ça amène la vie. Pour d'autres, ça amène la mort, dans le sens que c'est la vie qui va leur mettre au pied du mur, si vous voulez. Dans le sens que, savez-vous quoi? Jésus est vraiment vivant. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et vous avez besoin de prendre une décision. Voulez-vous l'accepter ou voulez-vous le rejeter? Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, j'avais vraiment à cœur d'amener quelques versets qui vont nous aider. La puissance de la vie chrétienne. Regardons ceci, Philippiens chapitre 2, versets 12 à 15. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes ces choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Tout le monde dit irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez. Savez-vous que vous êtes brillant? Regardez quelqu'un et dites vous êtes brillant. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Savez-vous que le plan de Dieu pour nous, les chrétiens, c'est de briller comme des flambeaux dans ce monde qui est perverti, ce monde qui est corrompu, ce monde qui est ténébreux. Est-ce que vous êtes d'accord que nous vivons dans un monde ténébreux? Mais nous sommes la lumière. Tout le monde dit, je suis la lumière, je suis le sel. On parle d'être un vrai chrétien ce matin encore. Comme j'ai dit mercredi soir, moi, personnellement, je suis dans un état de réveil dans mon cœur. Je suis plus en amour avec Dieu que jamais et j'ai comme un désir, comme jamais auparavant, de faire la volonté de Dieu pour ma vie, de connaître Jésus, pas juste d'être chrétien en nom, mais d'être un vrai chrétien, que les gens vont reconnaître que je suis un chrétien. Les gens vont reconnaître que je suis un petit Christ. Quelqu'un qui est oint de l'Esprit Saint. Quelqu'un qui porte en lui un trésor dans une vase de terre. Pour que quand j'arrive dans la présence de quelqu'un, comme je dis, la personne qui venait chez moi quand j'avais 13, 14, 15 ans et qui me dérangeait, il est devenu peut-être mon meilleur ami aujourd'hui. Hein, c'est grâce à lui que je suis dans le ministère aujourd'hui. C'est lui qui est allé au même école biblique que j'ai fréquenté quelques années après. C'est lui qui m'a pris sous son aile pour que je commence dans le ministère. Mais ce gars m'a dérangé pendant le temps que j'étais dans la rébellion. Mais autant qu'il m'a dérangé, autant qu'il m'a inspiré quand mon cœur était droit avec Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Moi, je voulais être comme ça pour les autres. Je pense à un homme de Dieu qui s'appelait Smith Wigglesworth. Il y a des gens qui ont entendu parler de lui. Il était tellement rempli de la présence de Dieu qu'il n'avait même pas besoin d'ouvrir sa bouche. Mais il entre dans un train en Angleterre et il y avait d'autres personnes dans la voiture avec lui. Et puis, mais il est tellement rempli de la présence de Dieu, tout ce qu'il fait, il s'assoit, il dit pas un mot, il ouvre même pas sa bouche. Mais il est tellement rempli de la présence de Dieu que les personnes devant lui tombent à genoux et ils disent, « Monsieur, dis-moi, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être sauvé? » Ça, c'est quelque chose, vous êtes d'accord? Le gars, il dégageait la présence de Dieu. Mais savez-vous que ça doit être normal pour nous? C'est pas juste pour quelques hommes de Dieu, mais nous devrions tous porter en nous la présence de Dieu, l'onction de Dieu. Amen? Et savez-vous que c'est possible? Mais qu'est-ce qu'on voit ici, dans ce verset, que Dieu nous appelle à être les flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue? Mais regardons bien. Pour arriver là, pour arriver à cette place où on est tellement rempli de la présence de Dieu et tellement efficace dans notre vie chrétienne, ça prend la puissance de Dieu. Et le verset que j'avais à cœur, c'était ça. C'était bien 2 à 15, mais regardons, il y a un couple de choses qu'il faut savoir. Premièrement, sachez que vous êtes le chef d'œuvre de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu travaille en vous? Et que vous êtes le chef, son chef d'œuvre, vous êtes sa création. Éphésiens 2:10 dit ceci, « Nous sommes son ouvrage. » Nous sommes son ouvrage. Avez-vous pensé à ça? Allô? Vous êtes l'ouvrage de qui? De qui? Pensez-vous qu'il fait un bon travail? Combien de fois vous croyez que Dieu, quand il travaille bien? Si Dieu fait quelque chose, c'est pas à moitié. C'est jamais bric-à-brac. Jamais. Si Dieu fait quelque chose, c'est toujours avec excellence. C'est toujours avec perfection. Et ce verset dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance, afin que nous les pratiquions. Donc, sachez que vous êtes l'ouvrage de Dieu. Que Dieu a commencé une œuvre en vous, dans votre vie. Et si vous êtes dans le Seigneur aujourd'hui, c'est parce que Dieu a travaillé déjà. Personne ne vient à Jésus juste de son propre gré. La Bible dit que nous venons à Christ parce que l'Esprit de Dieu nous attire. L'Esprit de Dieu travaille en nous et il nous amène à Jésus. Amen. Mais vous êtes l'ouvrage de Dieu, mais regardons bien, c'est lui qui va rendre cette œuvre, quoi? Parfaite. C'est une bonne nouvelle. Parce que souvent, on entend des histoires comme Smith Wigglesworth ou le monsieur que j'ai parlé tantôt, que juste sa présence m'a convaincu de mes péchés et tout cela. Et on dit, waouh, mais on met ces hommes et ces femmes dans une catégorie à part. On parle de l'apôtre Paul. Et on dit, waouh, mais ça, c'était un grand homme de Dieu. On parle de Pierre. Oh, un grand homme de Dieu. L'apôtre Jean. Oh, on parle des saints. Mais savez-vous quoi? Selon la parole de Dieu, nous sommes tous les saints en Jésus-Christ. Vous êtes les saints. Vous êtes mis à part. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Dieu a fait quelque chose dans votre cœur. Il a commencé une bonne œuvre en vous. Mais regardons Philippiens chapitre 1, verset 6. Et c'est le Saint-Esprit qui vous parle ce matin. Bon, mais ça, on va voir ça avant Philippiens 1, 6. Ça, c'est Philippiens 2, dans la parole vivante, qui dit ceci. Vous n'êtes pas seul. Regarde, quelqu'un a dit, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, je ne suis pas seul dans mon cheminement avec le Seigneur. Vous n'êtes pas seul. Dieu, lui-même, œuvre en vous. Dieu, c'est qui œuvre en vous? Dieu, lui-même, œuvre. Ça fait présent, n'est-ce pas? Il n'a pas œuvré, il ne va pas ouvrir, il œuvre en vous. Il parle aux chrétiens ici. C'est Dieu lui-même qui œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action. Quelques traductions disent, il vous donne le vouloir et le pouvoir de faire sa bonne volonté. Donc, il y a à la fois la volonté et l'action afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que Dieu a des desseins pleins d'amour pour vous? Il a des bons projets pour vous. Il a formé sur vous, avant la fondation du monde, des choses extraordinaires. Et je sais que vous êtes ici ce matin, pas par hasard, mais si vous êtes ici dans cette église, c'est parce que Dieu a un plan pour votre vie. Et le plan de Dieu pour votre vie est extraordinaire. C'est un plan qui est inspiré par amour. C'est un plan qui est en train d'être exécuté par l'amour aussi. Dieu, il vous aime, et parce qu'il vous aime, il œuvre en vous. Écoutez pas juste avec vos têtes ce matin, écoutez avec vos cœurs. Dieu, le Créateur de l'univers, il œuvre dans vos cœurs. Et qu'est-ce qu'il veut faire dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il veut faire dans votre vie? Il veut vous rendre conforme à l'image de Jésus-Christ. Dieu ne veut plus que vous soyez accrochés aux choses qui sont pas correctes. Dieu ne veut plus que vous soyez harcelés par les mauvaises habitudes. Dieu ne veut plus que vous soyez accablés par les tourments du péché, par la peur, par la crainte, par la dépression. Dieu veut que vous soyez libres et Dieu veut se servir de vous pour libérer les autres.
Amen.
Amen. Alléluia! Dieu veut. Et parce que Dieu le veut, Dieu œuvre dans votre vie. Et n'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que c'est lui qui me donne le vouloir et le pouvoir. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que ça vous est arrivé d'être accablé ou prisonnier d'un péché? Il y a des choses, il vous semble que vous êtes dans l'impossibilité d'être libéré. Est-ce que vous savez c'est quoi? D'être harcelé par les pensées ou d'être déprimé même, quoi que ce soit. Est-ce que ça vous est arrivé de vous sentir sans force et sans puissance devant un problème ou devant un péché? Ça vous est arrivé? Sinon, est-ce que vous êtes un être humain? Je ne sais pas. On a tous eu ces expériences. Mais regardons, la bonne nouvelle, c'est que pensons à cette parole, que c'est Dieu qui agit en vous. La Bible ne dit pas que Dieu dort en vous. Dieu agit en vous. Il est à l'œuvre, il travaille, et Dieu est très travaillant. En fait, il ne dort jamais. Nous avons besoin de dormir, Dieu n'en a pas besoin, donc il travaille 24 heures sur 24 dans votre vie. Même pendant votre sommeil, si vous lui donnez la permission, il travaillerait dans votre sommeil. Moi, je sais. Moi, quand j'avais 16 ans, c'était dans mon sommeil que j'ai eu une expérience avec Dieu que je n'avais jamais oubliée, que je ne pourrais jamais décrire. C'était l'expérience la plus marquante de ma vie. C'était le moment où j'étais délivré une fois pour toutes de ma période de rébellion. Et c'était pendant mon sommeil que Dieu m'a rencontré, parce que mon cœur ne dort pas. Mon corps et mon intelligence vont dormir, mais mon esprit ne dort pas. Dieu ne dort pas non plus. Dieu travaille, il agit. Et Dieu veut agir dans votre vie 24 heures sur 24. Si vous lui donnez la permission, il va faire des choses extraordinaires. Donc, c'est Dieu qui agit en vous pour vous donner le vouloir et le pouvoir. Donc, pensons à ceci. Pensez à une situation où vous avez eu le sentiment d'être incapable d'être libéré, où vous êtes prisonnier en péché ou une pensée ou un problème, mais vous voulez être libéré. Il y a une partie de vous dans votre fort intérieur, tu veux, mais les choses que tu ne veux pas faire, tu fais quand même. Les choses que est-ce que vous connaissez ça? C'est quoi ce désir que vous avez de faire le bien? D'où est-ce que ça vient? C'est Dieu qui agit en vous pour vous donner le vouloir. Donc, le fait que tu veux faire la bonne chose, ça ne vient pas de votre être naturel. Ça vient de Dieu. Ça, c'est la preuve que Dieu agit dans votre cœur. Il y a des gens qui pensent avoir commis le péché impardonnable. « Oh, mais là, je suis perdu. J'ai déjà péché trop et Dieu ne va plus me recevoir. » Laisse-moi vous dire, aussi longtemps que vous êtes inquiet et vous avez le moindre crainte que vous avez commis le péché impardonnable, ça prouve que vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que si vous étiez vraiment perdu, vous n'aurez même pas le moindre désir d'être en règle avec Dieu. Le désir d'être en règle avec Dieu vient de Dieu lui-même. C'est vraiment une preuve qu'il travaille dans votre cœur. Dieu agit en vous pour vous donner le vouloir et le faire. Donc, les deux vont de pair. Le vouloir et le pouvoir. Tout le monde dit le vouloir et le pouvoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut être libéré de la boisson peut être libéré de la boisson. Quelqu'un qui veut être libéré des pensées impures, il peut être délivré des pensées impures. Celui qui veut être délivré de la dépression peut être délivré de la dépression. Celui qui veut être délivré de la pauvreté peut être délivré de la pauvreté. Amen. Celui qui veut peut. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui produit en nous à la fois le vouloir et le faire. C'est Dieu qui a commencé cette œuvre. Et selon Philippiens 1:6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra quoi? Parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Merci Seigneur que l'œuvre qu'il a commencée dans votre vie personnelle, il va la rendre parfaite. L'œuvre qu'il a commencée dans notre Église, il va la rendre parfaite. Si nous lui donnons la permission de travailler, on peut bloquer le travail de Dieu. On peut refuser, on peut avoir un coup raide, on peut dire non Seigneur, je ne veux pas. Mais aussi longtemps que notre cœur est ouvert et nous sommes réceptifs, on va voir la main de Dieu agir dans notre vie. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 6, il y a un bon verset qu'il faut regarder ensemble ce matin. On parle de la puissance de la vie chrétienne. Savez-vous que vous êtes dans l'impossibilité de mener une vie chrétienne qui est saine, qui est sainte et qui est fructueuse sans avoir la puissance de Dieu? Sinon, c'est juste la religion. En fait, la puissance de Dieu fait la différence entre la religion et une relation qui est vibrante et qui fonctionne avec le Seigneur. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Tout le monde dit Christ en vous. C'est quoi quand la Bible dit Christ en vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus, le Christ, qui habite dans votre cœur, n'est-ce pas? C'est quoi encore le mot Christ? Ça veut dire l'onction aussi, n'est-ce pas? La présence manifeste de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le fait que Jésus-Christ habite dans votre cœur, c'est ça la chose qui vous donne l'espérance d'avoir la gloire de Dieu manifestée dans votre vie. Donc, le fait d'avoir Jésus-Christ et son onction et sa présence en manifestation, c'est ça qui vous donne l'espérance d'être un homme, une femme qui va glorifier Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Jésus-Christ n'est pas dans votre cœur, vous ne pouvez pas être glorifié. Et vous ne pouvez pas glorifier Dieu avec votre vie non plus. Mais si Jésus-Christ est vraiment dans votre cœur, si Christ et son onction est dans votre vie, et son onction se manifeste dans votre vie, vous allez donner gloire à Dieu. Vous allez entrer dans une place que les gens dans votre entourage vont reconnaître la présence de Dieu dans votre vie. Ils vont voir dans vos actes, ils vont entendre dans vos paroles, ils vont ressentir dans votre présence la présence de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim et soif de ça? Parce que si vous n'avez pas faim et soif de ça, rentrez à la maison tout de suite. Non. Parce que ça ne donne pas grand-chose d'écouter ce message si vous n'avez pas faim et soif de mettre ce message en pratique. Moi, je veux glorifier Dieu dans ma vie. Et vous voulez aussi, c'est pourquoi vous êtes là. Amen. Regardons ceci. On continue dans ce verset. Christ en vous, l'espérance de la gloire, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, et ça comprend les femmes, ok? Afin de présenter à Dieu tout homme devenu quoi? Devenu quoi? Parfait. Bien sûr, ce mot veut dire mature. Mais quand même, laisse-moi vous dire, Jésus l'a dit lui-même, soyez parfaits car votre Père est parfait. Et devant un commandement comme ça, soyez parfait, on se sent faible, on se sent incapable, on se sent des fois condamné si on écoute les mensonges de l'ennemi. Mais toi, tu ne seras jamais parfait. Mais selon ces paroles, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est à quoi nous travaillons afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, Paul a dit, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est quoi qui agit en lui? La force de Dieu. On parle de la puissance de la vie chrétienne ce matin. On parle du fait que c'est bon d'avoir le désir d'être comme Jésus, de marcher comme Jésus, de parler comme Jésus, d'agir comme Jésus. Mais je vous dis tout de suite que si vous n'avez pas la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu en manifestation dans votre vie, ça va juste les œuvres de la chair, ça va pas fonctionner et vous allez tomber sur votre visage encore et encore et encore. Vous allez être frustré dans votre vie chrétienne. Savez-vous c'est quoi d'être frustré? Vous dites, OK, avec la force de la volonté, oh, je ne vais pas regarder ça, je ne vais pas regarder ça, puis tu regardes. Oh, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, tu le fais. Oh, je ne vais pas chicaner, je ne vais pas... Et tu le fais quand même. Ça, c'est frustrant, ça, c'est décourageant. Mais quand nous avons la puissance de Dieu qui agit dans notre vie, et quand nous donnons libre cours à cette puissance, il nous libère. Et celui qui a commencé à nous cette bonne œuvre, il va la rendre parfaite. Alléluia. Regardons. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Là, on a cette exhortation. Là, on voit l'apôtre Paul qui dit que c'est à quoi je travaille en combattant avec la force, selon la force qui agit puissamment en moi. Si cette force a agi puissamment en Paul, cette même force peut agir puissamment en vous. Et je pense que je vais trop vite ce matin. J'ai pas l'impression que vous saisissez. Est-ce que vous saisissez? Je sais que qu'est-ce qu'on a dit il y a quelques semaines, ça prend une révélation. Mais une révélation, c'est pas le pasteur qui peut vous donner la révélation. C'est pas un autre homme qui peut vous donner une révélation. La révélation vient de qui? De l'Esprit. Là, je peux vous montrer, comme j'ai dit, j'ai le choix. Je peux offrir les fleurs à ma femme. Je peux acheter une douzaine de roses et fraîchement coupées et je peux lui offrir pour un cadeau, pour notre anniversaire, je peux lui offrir des fleurs qu'elle peut toucher et sentir, elle peut mettre ça dans un vase. Ou, je peux lui offrir une photo des roses. Qu'est-ce qu'elle va aimer le plus? La photo, c'est joli. Mais la photo, c'est pas la même affaire, c'est pas la vraie chose. Et qu'est-ce que... Comme j'ai dit, c'est la même chose quand, à chaque fois que le pasteur ou quelqu'un amène un message de la parole de Dieu. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous montrer l'image. Je peux prêcher la parole, je peux vous montrer l'image de qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse en tant que croyant. Mais c'est à vous, maintenant, de demander, Seigneur, donne-moi une révélation de qu'est-ce qu'il est en train de dire. Je veux pas juste voir et avoir le concept dans ma tête. Mais Seigneur, je veux saisir la réalité de ce qu'il est en train de dire. Là, le pasteur vient de dire qu'il y a une puissance qui est disponible. Il y a une onction, il y a une présence de Dieu qui est disponible. Et que cette présence, cette onction va me transformer, ça va me changer, ça va faire en sorte que ma vie chrétienne va être une vraie vie chrétienne. Que les gens dans mon entourage vont voir Jésus en moi. Et que quand je vais imposer les mains aux malades, les malades vont être guéris. Et que quand je rentre dans une place, la lumière de ma vie va briller. Amen. C'est ça que je veux. Et vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette puissance agisse en nous? Pour que Dieu puisse continuer son œuvre? Il y a quand même des choses qu'on peut faire. Numéro 1, recevez sa parole avec humilité. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir sa parole avec humilité? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire pour que la puissance de Dieu agisse dans ma vie? Ça peut tout faire. Et en verset 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Moi, je suis convaincu que un des plus grands problèmes dans les églises aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas compris l'importance de la parole dans leur vie. vous êtes là. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, vous pouvez souligner cette phrase, recevant la parole de Dieu. Savez-vous que vous avez le choix soit de recevoir ou de rejeter la parole de Dieu? En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de qui? La parole de Dieu qui fait quoi? Qui agit en qui? En vous qui croyez. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset? Je peux juste ralentir un peu pour que vous puissiez vraiment saisir ce matin. Là, on voit, selon qu'est-ce que Paul a dit, que les Thessaloniciens, ils ont reçu la parole de Dieu de la bonne façon. Qui veut dire forcément qu'il y a aussi une mauvaise façon. On peut recevoir ou on peut rejeter. Et la façon qu'on reçoit la parole va déterminer si la parole va agir ou, c'est quoi l'autre option? Si ça peut agir ou pas agir. Ça peut avoir un effet ou ça peut être sans effet. Hébreux, on voit Hébreux, il dit que la parole qui a été prêchée ne servait de rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mélangé la foi avec la parole qu'ils ont entendue. C'est-à-dire qu'on peut avoir une centaine de personnes dans une église et 50 de ces personnes vont recevoir la parole avec un cœur humble. Et ils vont croire cette parole et cette parole va agir. Cette parole va faire une œuvre. C'est Dieu qui agit en vous, qui vous donne le vouloir et le faire. Comment est-ce que Dieu œuvre dans votre vie? Comment est-ce que Dieu vous perfectionne? Hein? Est-ce que Dieu fait abracadabra, bon, vous êtes parfait? Des fois, ça serait intéressant, n'est-ce pas? Seigneur, montre-moi le bouton. Quel bouton est-ce que je dois avoir besoin de peser là et là, je suis parfait. Poum! J'ai plus de problèmes, j'ai plus de tentations, j'ai plus de faiblesses. Poum! Je suis parfait. Non, c'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu veut perfectionner son œuvre dans votre cœur. Dieu agit dans votre cœur, mais comment est-ce qu'il agit dans votre cœur? Il y a deux moyens principaux par lesquels il agit. La première chose, c'est à travers sa parole. Les gens ont de la misère à y croire. Pourquoi? Parce que nous sommes les êtres naturels qui sont, comment je dirais ça? On est tellement habitués dans ce monde à croire que si on ne peut pas le toucher, si on ne peut pas l'entendre, si on ne peut pas le goûter, si on ne peut pas le sentir, c'est quoi l'autre j'ai manqué? Et si on ne peut pas le voir, que ce n'est pas vrai. La parole de Dieu, on ne peut pas toucher physiquement. Est-ce que vous êtes d'accord? On ne peut pas voir la parole de Dieu physiquement. On ne peut pas sentir la parole de Dieu. On ne peut pas entendre avec l'oreille physique la parole de Dieu. Mais est-ce que la parole de Dieu est vraie? Oui, effectivement. En réalité, il n'y a rien, absolument rien de plus vrai que la parole de Dieu. Rien de plus vrai. Rien de plus concret. Rien de plus réel. Pourquoi? Les choses qu'on peut expérimenter avec les cinq sens, ça vient d'où? Pourquoi est-ce que je peux toucher la chaise aujourd'hui? Pourquoi je peux toucher le bois franc aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je peux voir ça? Pourquoi je peux sentir l'odeur d'une rose aujourd'hui? Pourquoi je suis capable de goûter la nourriture que je mange? Pourquoi? C'est parce que Dieu a dit quelque chose. Si tu es capable de goûter ton dîner aujourd'hui, tu goûtes ton dîner à cause de la parole de Dieu. Pourquoi? Si tu vois les arbres aujourd'hui, tu vois les arbres aujourd'hui à cause de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout ce que nous voyons en Hébreux chapitre 11, on n'a pas un diapo pour cela, mais en Hébreux chapitre 11, il y a un verset qui dit clairement, en verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été quoi? Formé par la parole invisible de Dieu, n'est-ce pas? Le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Dieu a créé tout ce qu'on peut expérimenter avec nos cinq sens, avec sa parole. Donc, j'ai une bonne nouvelle. Dieu peut changer et transformer et altérer tout ce que nous voyons dans le naturel avec sa parole aussi. Avez-vous des choses que vous avez besoin de changer dans votre vie? Avez-vous une maladie dans votre corps physique? Est-ce que vous avez quelque chose dans votre corps qui n'est pas supposé d'être là? Si c'est là et c'est pas supposé être là, c'est quoi qui peut le changer? Dieu veut agir, mais comment? Dieu a envoyé sa parole. Psaume 107 dit, Dieu, il a envoyé sa parole, il les a guéris. Jésus a chassé les démons avec sa parole. Le centenier qui avait un serviteur paralysé, il a dit, Seigneur, pas besoin que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il avait foi et croyait à la puissance de la parole. La parole agit. Tout le monde dit la parole agit. Et laisse-moi vous dire que la parole agit puissamment, mais seulement, regardons ceci, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est-à-dire que si vous doutez, si vous ne croyez pas, la parole de Dieu n'agissait pas. C'est pourquoi à chaque jour, si on prend le temps de méditer la parole, de recevoir la parole avec humilité, et on croit que cette parole est assez puissante pour nous changer, que Dieu va agir dans notre vie. Il va transformer les choses qui ont besoin d'être transformées. Vous avez un problème avec la colère? Vous perdez votre sang-froid? Personne ici. Non, j'ai pas demandé que vous levez la main non plus. Hein, vous êtes... Regardez bien. Savez-vous que la parole de Dieu dit que l'amour est patient? La parole de Dieu dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, le fait qu'on reçoit avec douceur, merci Seigneur, je reçois cette vérité. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 3 aussi, c'est pas dans vos notes, mais en 2 Corinthiens 3, ça parle du fait que nous, en verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, Dieu travaille dans notre cœur, premièrement, par son Esprit, pardon, par sa parole, mais la parole et l'Esprit travaillent toujours ensemble. Donc, si Dieu agit, et si Dieu va vous transformer, comment est-ce qu'il va le faire? Il va le faire à travers sa parole et à travers son Esprit. Au commencement, comment est-ce qu'il a créé le monde? La Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de la terre, n'est-ce pas? C'est comme si le Saint-Esprit était prêt à agir et dès que la parole est sortie de sa bouche, que la lumière soit, boum, le Saint-Esprit a agi. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, savez-vous que quand vous recevez avec douceur la parole de Dieu, vous dites, merci Seigneur que je suis un homme patient. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que l'amour est patient et tu dis dans ta parole que l'amour est répandu dans mon cœur. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Vous savez que si vous confessez cette parole de votre bouche et vous croyez dans votre cœur que ça va faire son effet, ça va agir dans votre vie et ça va produire en vous les résultats dont vous avez besoin. Et il faut le dire, et il faut le croire. Et puis la parole va agir. Cette parole sur votre étagère n'agit pas. Un livre sous votre bras le dimanche matin, ça ne va pas changer votre vie. Ça ne va pas vous donner la liberté dont vous avez besoin. Est-ce que vous êtes là ce matin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plonger nos regards dans la loi, la parfaite de la liberté. Verset 18 de 2 Corinthiens 3, il dit ceci. Ce n'est pas dans vos notes, mais... Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce que vous avez saisi cela? Tout le monde dit de gloire en gloire. Votre vie chrétienne est supposée d'être un processus. On va de gloire en gloire. Aujourd'hui, je ressemble à Jésus. Mais demain, je suis supposé de de ressembler davantage à lui. Aujourd'hui, je vois Jésus en vous. Mais la semaine prochaine, j'aimerais voir plus de Jésus en vous. Regarde quelqu'un et dit, je veux voir plus de Jésus en vous la semaine prochaine. Mais en réalité, on devrait le faire comme ça. On va corriger. Pour une petite correction, regardez la personne et dites, je veux que vous voyez plus de Jésus en moi la semaine prochaine. Ça change tout, n'est-ce pas? Jacques chapitre 1, verset 21 dit, c'est pourquoi rejetez tous ceux qui s'allient et tous les excès dus à la méchanceté, accueillez avec humilité la parole de Dieu plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. C'est quoi qui a le pouvoir de vous sauver? Non, c'est juste la 50% de la bonne réponse. C'est quoi qui a le pouvoir de vous sauver? La parole de Dieu qui est plantée dans votre cœur et que vous avez accueillie dans votre cœur avec humilité. La parole de Dieu ne peut pas vous sauver sans ajouter la foi à la parole. C'est pourquoi, moi je connais des personnes qui peuvent citer la moitié de la Bible, mais ça ne veut pas dire que la Bible agit dans leur vie. La parole de Dieu est pour toujours établie dans les cieux. Dieu a dit les choses, ces choses sont vraies, ces choses sont immuables, il ne peut pas être changé, Dieu ne ment jamais, mais il faut que je croie en ce que Dieu a dit. Il faut que je croie que je suis une nouvelle création. Et si je reçois avec humilité la parole dans mon cœur, ça va transformer ma vie. Amen. Donc, c'est quoi la deuxième chose qu'on doit faire pour que Dieu nous transforme et qu'il agisse dans nous? Soyez remplis de son esprit. Recevez sa parole avec douceur. Croyez à sa parole et soyez remplis de l'esprit. Moi, je veux que les gens disent à propos de nous, « Oh, ces gens de la vie comblée. » Ce band des petits oins. Parce que comme je dis, pour quelques-uns, ils vont être tellement contents, ils vont dire, wow, merveilleux, regarde ce gang de petits oins, ils font tellement du bien. Qu'est-ce que l'onction fait? Vous savez comment Jésus, hein? Comme Dieu a oint de Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, OK? Vous avez une image? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, une fois qu'on est vraiment rempli de son esprit, avec la même onction qui était sur Jésus, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la même chose. Vous allez vous promener de lieu en lieu, faisant du bien. Et vous allez pouvoir guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Donc, c'est ça que je veux. C'est ça que vous voulez. C'est ça que nous voulons, n'est-ce pas? Je veux faire du bien. Et il y a des gens dans notre entourage, comme hier, à la fête Alléluia, combien des personnes, des familles qui ne fréquentent pas les églises, il y en a plusieurs qui ont dit, « Ah, c'est vraiment quelque chose, qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites tellement de choses pour les enfants. » Il y a des personnes qui étaient presque en larmes parce qu'ils étaient touchés de voir qu'est-ce que cette gang de petits ont fait pour leurs enfants. Pour moi, c'est un bon témoignage. Et c'est juste une question de temps que ces personnes vont venir au Seigneur. Mais c'est ça qu'on veut. Donc, quand on est rempli de l'Esprit, les gens vont dire, « Wow, je vois Jésus. » Et les gens qui sont ouverts à Jésus vont aimer ça. Ceux qui n'aiment pas Jésus, comme Jésus a dit, « Si le monde vous haït, n'oubliez pas qu'ils m'ont haï en premier. » Savez-vous quoi? Il y a des personnes qui ne sont pas toujours contentes quand l'œuvre de Dieu se fait. Jésus guérissait les malades, même le jour du sabbat. Et puis, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de l'homme avec la main séchée? Il a guéri cet homme, c'était le sabbat. Et puis, les juifs, les religieux, étaient tellement fâchés. Comment ça qu'il est guéri? le jour de sabbat. Il y a six jours pour travailler. Et tu devrais faire ça les autres jours. Avez-vous remarqué une chose? Juste en passant, juste en parenthèse, les Juifs qui avaient une alliance avec Dieu, Jéhovah, Rapha, l'Éternel qui guérit, n'étaient pas étonnés du fait que l'homme était guéri. C'était tellement dans leur pensée, leur conscience. C'était pas ça qui dérangeait. Qu'est-ce qui dérangeait, c'est qu'il a fait ça samedi. Intéressant, n'est-ce pas? Et savez-vous quoi? Il y a des personnes que quand vous commencez à vivre la vie chrétienne, il y a des personnes qui vont être délivrées de leurs péchés, guéries de leurs maladies, et les gens qui vont se réjouir, gloire à Dieu, des foules qui vont venir à Jésus, mais il y a d'autres qui vont dire, comment ça? Il y a des gens qui vont être jaloux, il y a des gens qui vont être menacés, il y a des gens, c'est déjà arrivé que les personnes ont été mises en prison. Et il y a même une loi en France qu'ils ont passée il y a quelques années que c'est illégal d'imposer les mains aux malades dans certains cas. On peut être, avoir une amende de, je ne m'en souviens plus combien de dollars, est-ce que tu t'en souviens, c'est 75 000 ou 5 ans de prison pour l'imposition des mains. C'est parce qu'on pratique le médecin sans une licence, c'est ce genre de choses. Hein? Il y a des choses que, c'est pas exactement ça, mais les détails de la loi, je ne peux pas vous... Mais c'est quand même vrai que dans certains contextes, parce que je m'en souviens, j'étais en France quand ils ont passé la loi et j'étais avec un groupe de pasteurs qui ont pris une résolution. Même si je vais en prison, je peux pas ne pas faire ce que la Bible dit de faire. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, et puis finalement, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à se promener comme une bande de petits doigts. On va faire qu'est-ce que Dieu dit de faire. On a les gens qui ressemblent à Jésus. Nous faisons les œuvres de Jésus. Nous parlons comme Jésus. Nous ressemblons à lui. Mais pour cela, il faut être rempli de son esprit. Éphésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire quoi? Remplis de l'esprit. Donc on voit, on reçoit la parole et la parole agit. On est rempli de l'Esprit et le Saint-Esprit agit. Et qu'est-ce qui est une bonne nouvelle pour nous ce matin? C'est que exactement le même Saint-Esprit qui était sur Jésus et qui l'a rendu capable de se promener en faisant du bien et guérissant les malades, exactement le même Saint-Esprit. Allô? Même. M-E. Circonflexe. M-E. Même Saint-Esprit est sur nous et peut nous remplir. Et exactement la même onction qui était sur Jésus peut agir en nous. Exactement la même. Alléluia! C'est pourquoi ils ont appelé les disciples à Antioche les petits chrétiens ou les petits chrétiens parce qu'ils étaient les gens qui avaient la même onction, le même Esprit Saint. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et savez-vous quoi? Je sais que dans ma vie personnelle, la chose qui m'a aidé le plus à marcher droit avec Dieu et à ressembler à Jésus, c'était quand j'étais baptisé du Saint-Esprit. Quand je parle d'être baptisé du Saint-Esprit, on sait que le plus grand est en nous. La Bible dit que le plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais savez-vous quoi? Même si Jésus était en moi, j'avais besoin de son onction sur moi. Et quand... c'était en novembre, je pense, non, attends, je m'en souviens plus exactement quel mois, mais c'était en 1983 que j'ai reçu l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment-là que ma vie a été transformée. Avant ça, ma vie chrétienne était une vie chrétienne yo-yo. J'avais des hauts et des bas. J'avais des luttes avec des choses de pas correctes dans ma vie. Puis je voulais, mais je pouvais pas. Mais quand j'ai donné libre cours à l'Esprit Saint, et quand j'ai reçu avec douceur et avec humilité la parole de Dieu, et le Saint-Esprit qui était en moi et sur moi m'a enseigné la parole, m'a donné la force et la puissance dont j'avais besoin, là, à ce moment-là, je peux vous dire, depuis 1983, j'ai jamais eu une chute comme telle. Est-ce que je suis en train de dire que j'ai jamais péché? Non. Demande à mon épouse. J'ai fait des choses qui ne sont pas correctes, j'ai dit des choses qui ne sont pas correctes, j'ai eu des moments où j'ai perdu mon sang-froid aussi, parce que je suis quand même Bon, temporairement, j'ai une bonne partie de colérique aussi. Moi, je sais c'est quoi d'être fâché, je sais c'est quoi de piquer une crise. Quand j'étais jeune, je le faisais toujours. Demande à ma mère. Donc, si tu veux savoir, demande à ma mère, demande à ma femme, et elles vont vous dire. Mais savez-vous quoi? Depuis 1983, je me suis jamais éloigné de Dieu ou rétrogradé. Gloire à Dieu! Donc, ça fait combien d'années maintenant? Je ne sais pas. 24 ans. 24 ans de victoire! Gloire à Dieu! Je pense que je vais célébrer. Woo! 24 ans de victoire! Mais comment est-ce que j'ai eu cette victoire? Une journée à la fois. Une journée à la fois. J'ai reçu la parole et je continue à recevoir la parole. J'étais rempli du Saint-Esprit et je continue à être rempli du Saint-Esprit. Une journée à la fois, pendant 24 ans, on fait ça et laissez-moi vous dire, vous ne tombez plus dans le péché. Vous ne faites pas des compromis. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et c'est qui reçoit toute la gloire? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui agit en vous, qui vous donne le vouloir et le pouvoir selon son bon plaisir. Mais il faut recevoir la parole, il faut être rempli de l'Esprit. Et je m'en souviens, cette journée-là, je me suis réveillé après avoir passé cette nuit où j'ai rencontré Dieu dans mon sommeil. Et je me suis réveillé et j'avais dans mon cœur le désir, je savais, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je ne savais pas comment, mais je savais que ma mère avait un livre qui parlait de ça. Donc, première chose, je me réveille, je vais chercher sur l'étagère de ma mère un livre. J'ai lu 3 pages qui expliquent que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour nous aujourd'hui et comment recevoir cela par la foi. J'ai lu 3 pages, j'ai dit, OK, Seigneur, c'est ça que je veux. J'étais tout seul à la maison, j'avais 16 ans, j'étais dans le salon et je dis, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et là, je commence à par la foi, à parler à nos salons. Et savez-vous quoi? Ça, c'est exactement ce qui s'est passé en acte 2, n'est-ce pas? Il fut tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en autre langue. Et avec cette expérience, je vais juste vous dire une chose, par exemple. Je n'ai pas ressenti une chose, c'était sec, sec, sec. Jusqu'au point où j'avais des pensées, c'est pas vraiment le Saint-Esprit, c'est juste toi qui entends ça. Je dis, mais non. Je pensais à un verset qui dit, si quelqu'un demande à son père un pain, est-ce qu'il lui donnera une pierre? S'il demande un œuf, est-ce qu'il va lui donner un scorpion? S'il demande un poisson, est-ce qu'il va lui donner un serpent? Non! Si vous êtes un méchant, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison ceux qui demandent, Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Là, j'ai demandé la vraie chose. Dieu ne va pas me permettre d'avoir quelque chose de fausse. Donc, j'ai dit ça. À haute voix, je vais continuer. Merci Seigneur. Par la foi, je crois que tu es en train de me remplir. Je continuais et pendant 20 minutes, j'ai loué le Seigneur en autre langue. Et puis, tout d'un coup, après à peu près 15 minutes, j'ai eu des émotions qui ont embarqué. J'avais des larmes qui coulaient. Mais émotion, pas émotion, c'est pas ça qui compte. Parce que quand on prie en langue, c'est notre esprit qui prie. Notre intelligence, nos émotions restent stériles. Mais laisse-moi vous dire, c'était à partir de ce moment-là, en 1983, que ma vie a été transformée par la puissance de Dieu et que depuis 24 ans, j'ai jamais eu un moment où j'ai rétrogradé. Gloire à Dieu! C'est cette puissance dont vous avez besoin. C'est cette puissance dont nous avons besoin. À chaque jour rempli de la parole, à chaque jour rempli du Saint-Esprit, à chaque jour, troisième chose, on fait quoi? Suivez ton exemple. À chaque jour, je veux vivre comme Jésus. Je veux prendre la parole et l'Esprit qui est en moi et sur moi, et je veux suivre Jésus, comme Éphésiens 5:1 dit, comme des enfants imitant leur Père. Vous-même, enfants bien-aimés de Dieu, suivez en tout point son exemple. Que votre vie soit régie par l'amour. Agissez. Tout le monde dit agissez. Et si vous êtes capable d'agir, c'est parce que Dieu agit en vous en premier, n'est-ce pas? Agissez comme le Christ, qu'il vous a tant aimé, qu'il s'est offert en sacrifice à Dieu pour vous, comme une véritable offrande dont le parfum plaît à Dieu. Donc, Dieu nous demande à agir comme Jésus agit, mais il faut que Dieu agisse en moi avant que j'agisse. Suivez-moi? Alléluia. Donc, on va se lever debout ce matin. Et on va prier. Et on va demander, Seigneur, je ne veux pas que ça soit juste un message qui entre dans une oreille, puis sort par l'autre. Mais Seigneur, je veux que ça descende dans mon cœur. Je veux, Seigneur, que ce message fasse son œuvre. Je veux que la parole de Dieu agisse en moi. Alléluia. Merci, Seigneur. Juste avec les yeux fermés, juste pour une minute. Je veux qu'on réfléchisse. Je veux qu'on demande, Seigneur, fais le bilan. Sonde ton cœur. Demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi l'image que tu as de moi par la foi, Seigneur, de l'homme ou la femme que je suis supposé d'être. Montre-moi, Seigneur. Donne-moi une vision de ma vie parfaite en Christ. Donne-moi une vision de ma vie. Qu'est-ce que ça va avoir l'air après d'avoir eu l'action de l'Esprit et l'action de la parole? Car je suis persuadé, Seigneur, que toi qui as commencé à moi cette bonne œuvre, c'est toi qui vas la rendre parfaite au nom de Jésus. Et montre-moi, donne-moi une vision de ma vie. Quel genre de mari est-ce que je vais être? Quel genre de femme ou quel genre d'employé, quel genre de père ou quel genre de personne est-ce que tu veux que je sois, Seigneur? Donne-moi une vision. Comment est-ce que je vais réagir dans les différentes situations dont je fais face dans ma vie? Comment est-ce que je vais gérer les situations difficiles, Seigneur, une fois que ton œuvre est perfectionnée dans ma vie? Demandez au Seigneur de vous donner une vision de votre vie perfectionnée en Jésus-Christ. Et demande-lui de vous donner une révélation, pas juste dans la tête, mais dans le cœur. Seigneur, merci. Tu agis, Seigneur, puissamment en nous. Tu agis puissamment en nous. Merci, Père Céleste. Oh, alléluia. Merci, Père. Donc, on va prier pour les gens ce matin. Mais avant de prier pour les gens qui veulent être rempis du Saint-Esprit, je vais faire comme j'ai promis de faire. À chaque dimanche, j'ai promis de donner une invitation à ceux et celles qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Si vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, tout le monde peut ouvrir les yeux pour une minute, parce que ça, c'est une chose qu'on a besoin de faire sans avoir honte. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour vos péchés. Il est ressuscité le troisième jour. Et Jésus a dit ceci, que si tu me confesses avec ta bouche devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut te libérer de tout ce qui te lie. Mais il faut lui donner la chance. Il faut l'accepter comme ton roi, comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de faire ça? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous quittez la bâtisse aujourd'hui et votre cœur arrête de battre. Est-ce que vous êtes sûr et certain, sans aucune doute, que vous irez au ciel pour l'éternité avec le Seigneur? Sinon, aujourd'hui, vous pouvez donner votre vie à Jésus. Je vais juste compter à trois. Et s'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus, je vous lève la main. Est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Un, deux, trois. S'il y a quelqu'un, je vous lève la main. Je pense que je connais presque tout le monde ici aujourd'hui. Je crois peut-être quelques-uns. Et je pense que probablement tout le monde ici a déjà donné sa vie au Seigneur. Mais peut-être il y a des gens qui ont besoin d'aller plus loin. Et vous n'avez jamais eu l'expérience, comme j'ai mentionné, Actes 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en autre langue, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est une expérience qui vous appartient, qui va vous donner la puissance dont vous avez besoin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, oui, moi, j'aimerais que tu pries pour moi, je veux recevoir cette expérience, je veux être rempli du Saint-Esprit. Juste lever la main, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Alléluia. Oui, il y a une personne ici. Donc, Caroline, c'est Ginette ou Caroline. Venez ici en avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de cette expérience? Venez ici en avant, on va prier pour vous. Alléluia. On a des préposés à l'hôtel qui vont prier avec vous dans 10 minutes. Mais on va prier ensemble pour les gens le soir. Donc, j'aurai besoin d'un homme en préposé. Si Pastor Claude peut venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de cette expérience? Venez en avant. Nous allons prier. Vous soyez remplis aujourd'hui. On va prendre le temps nécessaire pour vous expliquer comment recevoir dans 10 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Venez vous en vite si vous avez besoin de ça. Allez, on va prier. Seigneur, merci. Merci pour ces personnes, Seigneur, qui désirent plus, qui désirent, Seigneur, te connaître d'une façon puissante et intime. Seigneur, je prie, Seigneur, que quand ils vont prier tantôt avec ces préposés, Seigneur, qu'ils vont recevoir, ils vont être remplis, Seigneur, jusqu'à déborder de ton esprit, Seigneur. Seigneur, nous te remercions que l'œuvre que tu as commencée en eux, c'est toi qui vas rendre cette œuvre parfaite au nom de Jésus. Et on va tous prier cette prière ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie. Et je suis persuadé que toi qui as commencé en moi cette bonne œuvre, c'est toi qui vas la rendre parfaite. Car c'est toi qui agis en moi. C'est toi qui me donne le vouloir et le pouvoir de faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.